Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
Il est 8h43 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit libre avec Cécile Cornudet des Échos et Nicolas Bétou, le président et le fondateur de L'Opinion. Nicolas, Cécile, Nicolas, je commence avec vous puisque vous fêtez ce matin, on en parlait avec David Abiker, les 10 ans de votre journal. Bon anniversaire d'abord. Merci. L'Opinion, média libéral, pro-business et pro-européen. C'est comme ça que vous définissez votre journal. Le pari est gagné quand même pour vous en 10 ans.
En tout cas, on s'est installé dans le paysage. Je remercie à nouveau tous les confrères qui disent du bien de nous. C'est le cas de Cécile Cornudet il y a un instant. Je suis très sensible. C'est très important le regard des confrères et de la communauté journalistique et des médias sur un nouveau média. On est encore nouveau puisque nous n'avons que 10 ans et en même temps nous avons déjà 10 ans. Ça veut dire que nous sommes le seul quotidien d'information politique et générale, c'est une catégorie de quotidiens, les quotidiens nationaux, à avoir été créé depuis Libération, c'est-à-dire depuis un demi-siècle, et donc ça nous fait quand même plaisir d'être là.
Vive la liberté d'entreprendre dans ce cahier spécial pour ces 10 ans de l'Opinion, avec les contributions d'économistes, de grands chefs d'entreprise, de politiques. Ils ont penon Laurence Boone, Nicolas Bavresse, Bernard Arnault, Laurent Fabius, Xavier Niel et beaucoup d'autres. Mmh. Vous étiez une sorte d'ovni au départ, on se disait, mais c'est un risque dingue de créer un journal il y a 10 ans. Qu'est-ce qui fait pour vous, Nicolas, que ça fonctionne?
Il y a une alchimie assez complexe, mais dont on avait, malgré le mainstream, dont on avait défini les principaux ingrédients. Le premier ingrédient, c'est un journal digital avec une extension papier. À l'époque, on me disait, mais le print, le papier journal est mort, vous allez vous écraser. Un spécialiste, entre guillemets, un spécialiste des médias, dans un journal concurrent, avait écrit au bout d'une semaine que nous étions morts. Tous ces gens-là se sont trompés parce qu'en fait, le papier a une vertu que l'Internet n'a pas, c'est l'influence. Ouais. Le papier est un produit d'influence. Et pendant des années et des années, je continue à répéter, le digital, c'est l'audience. Le papier, c'est l'influence. Ça, c'est le premier élément qui fait que David Abiker, tous les matins, il a entre les mains un produit papier et pas seulement un flux qui passe et dont on ne sait pas très bien quelle est l'information la plus importante. La deuxième chose qui nous a beaucoup, beaucoup servi, c'est le fait que dès le début, j'avais décidé de travailler sur des papiers de fond. C'est un journal qui n'a pas de brève, ce qui est assez rare dans la presse, même unique, je crois. Et pour cela, de réunir des journalistes qui sont tous des journalistes très expérimentés. Et je me disais, au fond, on était à l'époque dans une espèce de mode où on alignait des jeunes journalistes, ou pas journalistes d'ailleurs, devant des ordinateurs. On leur demandait de googliser l'information et d'envoyer le plus vite possible des informations. Et il n'y avait pas de hiérarchie d'informations entre la visite d'Elisabeth Borne à La Réunion et un chat qui fait du skate. Et tout avait la même valeur. Nous, on a dit, non, stop, on veut une information à valeur ajoutée avec de l'analyse. Et tous les papiers sont anglais, comme on dit, ils ont un angle, un point de vue. Et c'est la troisième chose qui nous a servi et qui nous a permis d'être identifiés, c'est que nous avons décidé d'être un journal qui porte haut le fait qu'il est libéral, qu'il défend une société libérale, pas conservatrice, pas ultralibérale, libérale, c'est-à-dire c'est un courant d'idées, c'est pas un courant politique. Et il faut bien dire qu'on n'est pas très nombreux dans la presse à occuper ce créneau, en tout cas en politique pure, dans la presse quotidienne nationale. Et ça nous a distingués. En gros, on avait notre niche, pour prendre un terme économique. On avait les gens qu'il fallait pour l'occuper. Et on a réussi à faire sortir de cette niche une voix qui porte.
Voilà, dessin de CAC ce matin sur l'industrie, le défi de la France verte. On voit Emmanuel Macron réindustrialiser la France. Je serai le président des friches. CAC, des friches, hein, évidemment. CAC, c'est une excellente trouvaille. On parle d'Emmanuel Macron à Dunkerque. On a Elisabeth Borne qui est à la Réunion. On va commenter l'actualité politique avec vous deux, avec Cécile et avec Nicolas. Cécile, vous avez évoqué dans un édito d'un autre excellent journal qui s'appelle Les Échos,
oui, excellent journal,
l'illusion,
oui.
L'illusion rythmique de l'exécutif, c'est-à-dire.
Il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mots, parce que l'obsession en ce moment, c'est d'essayer de passer à autre chose que les retraites, et donc de montrer un quinquennat qui n'est pas à l'arrêt, alors que effectivement on se demande comment le moindre texte va pouvoir être voté au Parlement. Donc Emmanuel Macron est sur tous les fronts, et Elisabeth Borne, qui est dans une situation de fragilité, elle essaye un peu de vivre sa vie. Elle a compris que qu'Emmanuel Macron ne la soutiendrait pas jusqu'au bout et elle essaye un petit peu de se démarquer, ce qui crée d'ailleurs, je pense, un peu une difficulté, parce que si Emmanuel Macron impose ce rythme, c'est parce qu'il veut plus qu'on entende le bruit des casseroles. Et qu'est-ce qu'on entend quand Elisabeth Borne va à la Réunion? C'est le bruit des casseroles, alors qu'Emmanuel Macron, lui, essaye de montrer la réindustrialisation du pays. Donc je suis pas sûre que la séquence ait complètement plu au président.
Nicolas, choisir la Réunion pour un déplacement, c'est pas non plus la chose la plus simple, parce qu'on sait que Jean-Luc Mélenchon avait fait un gros score à la présidentielle, donc on s'attendait forcément à ce que l'arrivée soit compliquée pour la Première Ministre.
En effet, c'est un territoire qui est complexe, ça fait partie de ces territoires qui sont loin du centre-cœur, si j'ose dire, qui vivent dans un environnement de pays qui n'ont pas le même niveau de développement et qui vivent sur un modèle social attaché à un développement qui est celui de la France, la métropole. Et donc ça crée des décalages extraordinairement puissants avec une exigence de protection sociale et comme on le sait tous dans ces territoires-là, des niveaux de l'état social, de l'état nounou, de l'état qui paye au lieu d'avoir des gens qui travaillent, qui est très élevé, trop élevé par rapport à ce que devrait être l'équilibre d'une bonne société. Donc ça donne une société qui est une société politique, hein, qui est souvent très à gauche ou très hostile au pouvoir. Elisabeth Borne a fait le choix de maintenir ce voyage. Je ne sais pas si, en effet, comme vous le suggériez, c'était la meilleure solution.
Cécile, c'est vrai qu'elle a plus de coups à prendre, finalement, dans ce type de déplacement. On se demande toujours si elle est armée pour ce type de déplacement. Il y a des politiques qui aiment aller, j'allais dire, presque au fight, si je puis me permettre, au combat. Est-ce qu'elle a l'armure
pour... Je pense qu'elle est dans une opération survie, donc ouais. Elle essaye de voir comment elle peut émerger un peu dans ce moment très, très particulier. Des 100 jours où on sent que c'est elle, son compte à rebours qui est enclenché. Mais ça participe de toute façon d'une impression en ce moment d'un gouvernement qui flotte, parce que les ministres sont dans le même état d'esprit. Ils sont, pour la première fois depuis 3 mois, ils ont le sentiment qu'on peut parler d'autre chose des retraites de fait. Depuis ouais. 15 jours, dans ouais. les journaux, vous avez d'autres sujets. Et donc, du coup, c'est la course entre eux pour essayer d'imposer leur sujet, la fraude. Papendaï a essayé la mixité, il n'y arrive pas. Donc une sorte d'embouteillage et de confusion totale sur quelles sont les priorités du gouvernement, chacun se tirant un peu la bourre, avec un Matignon qui est faible comme jamais, qui n'a plus de prise sur ses ministres. Donc c'est un peu le sauf qui peut, je dirais. Donc je trouve qu'on ne peut pas traiter que la question Elisabeth Borne, c'est l'ensemble qui donne un visage un peu étonnant en ce moment.
Nicolas.
Oui, je voudrais ajouter à ça le fait que ce voyage à La Réunion révèle une des principales faiblesses d'Elisabeth Borne. C'est quelqu'un qui n'est pas politique et qui ne fait pas de politique lorsqu'elle s'exprime publiquement. Ce qui est nécessaire dans ce genre de circonstances, c'est sortir du champ technique et parler politique, essayer de parler au cœur, à la raison, en tout cas faire vibrer des cordes qui ne sont pas juste, j'allais dire un tableau Excel, ou le fait que à 43 années de cotisation, on peut avoir un peu plus que ceci ou un peu moins que cela. Et au fond, Elisabeth Borne, son principal sujet aujourd'hui, dans cette opération de reconquête ou de maintien, de sauvetage qu'évoquait Cécile à juste titre, son principal problème, c'est comment est-ce que je fais entendre ma voix autrement qu'en prouvant que je suis la meilleure des techniciennes, ce qu'elle est sûrement. Mais ça ne suffit pas.
Ça ne s'est pas complètement vu sur les retraites qu'elle était la meilleure des techniciennes. Mais son problème, c'est qu'Emmanuel Macron a voulu quelqu'un qui ne soit pas trop politique et ne lui fasse pas d'ombre. Et donc, on est dans ce paradoxe en ce moment.
Si je vous dis ça s'en va et ça revient, vous pensez peut-être à une chanson, mais surtout à la loi immigration. Est-ce que vous arrivez à comprendre quelque chose sur cette loi immigration et sur le positionnement du gouvernement, Cécile et Nicolas?
C'est extrêmement confus. Ça participe de ce moment très, très particulier, où on a quand même eu un président qui, dans son allocution, annonce un texte avant l'été, et 2 jours après, la première ministre, technicienne comme jamais d'ailleurs à ce moment-là, qui annonce que ce ne sera pas le cas. Et finalement, une semaine après, retour en arrière, puisque LR a bougé, le président remet de la pression sur la première ministre, qui dit oui, finalement, on va trouver un entre-deux, il y aura un accord d'ici juillet, même si le texte n'est discuté qu'à l'automne, donc voilà, c'est illisible, on peut le dire.
Nicolas.
C'est illisible dans la séquence des allers-retours, en effet. Ce qui est lisible, en revanche, très lisible, c'est l'opposition et la méfiance qui s'est créée entre le président de la République et sa première ministre. Enfin, c'est évident que ce projet de loi d'immigration, Elisabeth Borne n'en veut pas parce qu'il peut être un révélateur de sa faiblesse politique et de son incapacité à trouver une majorité. Et donc, le début de la fin de son mandat à Matignon, le président de la République, y compris sous la pression de la droite qui accélère, c'est son jeu, c'est normal, veut un texte, ou veut en tout cas essayer de faire un texte. Et donc, d'après ce que je comprends, et d'après ce que je sais, dirais-je, pour que ce soit plus crédible, le président de la République s'est fait forcer la main pour essayer de repousser les délais, et il a repris, il a resserré les rênes, de manière à reprendre la main sur au moins le calendrier, et la volonté politique ferme, dit-il, de faire passer une loi, en tout cas de faire examiner une loi sur l'immigration.
Enfin, quand et on bute, oui. Pardon, on bute sur le problème, la volonté politique du président, certes, mais comment il fait passer ce texte, parce que c'est depuis un an, on a une majorité relative, et c'est comme si le président n'avait pas pris acte de ce moment, et ne sait pas comment gérer ce moment.
On a l'impression toujours de tomber sur le même problème. Bah vous parliez de la droite. On a une interview aujourd'hui, cette semaine, de Laurent Wauquiez dans le Point. On a toujours plusieurs autres chefs de la droite en embuscade. Je pense à Lisnard, je pense à Xavier Bertrand, qui fait de nouveau parler de lui. Est-ce que le match est lancé, en quelque sorte, à droite, et est-ce que Laurent Wauquiez revient dans la partie s'il en était sorti?
Avant de vous répondre sur la droite, si je peux me permettre de répondre à Cécile Cornudet. Allez-y. sur voilà. La phrase « il ne sait pas comment gérer cette absence de majorité absolue », lui prétend avoir les clés. Je ne sais pas si elles sont bonnes et si elles ouvrent cette serrure, mais il prétend avoir les clés. Ces clés, ce sont celles-ci. La première, c'est « je vais faire passer le maximum de réformes par la voie réglementaire ». Et au fond, on n'a plus besoin de tout légiférer et encore moins de faire des lois ultra bavardes avec des centaines d'articles. Point numéro un. Ce qui, au-delà de la circonstance présente purement politique, serait une très bonne nouvelle qu'on fasse moins de lois et moins bavardes. La deuxième clé qu'il a, c'est je peux aller chercher, comme je l'ai fait sur plusieurs lois depuis un an. Et effectivement, il y a des lois qui ont été votées par le Parlement, les ENR, la réforme de l'assurance chômage, etc. Je peux aller chercher des majorités de circonstances. Point numéro trois. Plus j'avance dans cette forme d'impuissance toujours menaçante, plus j'arrive à démontrer que, bien sûr, je suis empêché, mais que les oppositions n'ont aucun avenir, puisqu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à constituer une majorité de remplacement.
Cécile, sur...
Le problème, c'est que je pense, moi, les retraites ont fait reculer la capacité de l'exécutif à trouver des majorités au cas par cas, parce que LR, puisque ça fait la transition, sort complètement traumatisé de l'épisode des retraites, traumatisé, divisé, sans boussole. Donc, sur quels alliés, avec qui, on peut construire des majorités au cas par cas, ça, c'est, on n'a pas la clé.
Il nous reste 30 secondes, Nicolas.
Et là-dessus, sur ce point, il y aura une date très importante, le 8 juin prochain, l'examen d'une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. D'après ce qu'on comprend à ce jour, en tout cas, l'Élysée veut aller au débat, veut qu'il y ait un débat parlementaire et si possible même un vote. Et là, les Républicains vont vraiment être mis devant leurs responsabilités.
En 5 secondes, Wauquiez revient dans le jeu?
Oui, parce que il a sans doute payé très cher le fait de se cacher jusqu'à présent. Après, c'est une interview, pas forcément beaucoup de propositions derrière. Le chemin sera long.
Nicolas.
Il ne revient pas dans le jeu, il revient juste pour une petite apparition sur la scène du théâtre politique et il se remet en réserve probablement. Il devait répondre à cette série de critiques très lourdes qui venaient même de son camp, ce que Guillaume Tabar disait tout à l'heure. Il était trop absent.
Juste un dernier mot sur Saint-Brévin. Sur ce qu'on voit, qu'est-ce que cela vous inspire? Je sais qu'on est pris par le temps, mais Cécile, Saint-Brévin, on voit un maire qui est obligé de démissionner, un incendie il y a un mois, ça bouge pas.
Pour moi, il a été lâché complètement, seul, ce maire face à ses difficultés et l'installation de son réfuge de migrants. C'est la défaillance de l'État et l'État se réveille deux mois après avec quand même un énorme problème médiatique et une réponse en urgence.
Nicolas, en quelques secondes.
Défaillance de l'État et inexistence absolument stupéfiante des capteurs locaux qui font remonter à la fois au préfet mais aussi par le biais des députés l'information au sommet de l'État. C'est absolument stupéfiant.
Et jeu d'une partie de l'extrême droite, notamment des zémouristes qui, et ça c'est dans l'opinion que je l'ai lu d'abord en premier il y a à peu près un ou deux mois, qui sont eux-mêmes dans une sorte de cancel culture à empêcher, à interdire l'expression et à empêcher un projet comme celui-là.
Ben voilà, grâce à vous j'ai fini Guillaume Durand ce matin, c'est-à-dire qu'on va largement déborder et dépasser les 9h. Merci Cécile. Cécile, merci Nicolas. Et encore merci. Une fois, bon anniversaire à l'Opinion qui a donc 10 ans aujourd'hui. Et donc ce numéro spécial que vous trouvez dans tous les bons kiosques. Il est 8h58 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Augustin Lefebvre pour l'essentiel.